Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la raison. Troisième partie. Première section. Grand 4. L'idée d'un peuple de Dieu ne peut avoir son accomplissement que sous la forme d'une Église, soumise à l'organisation humaine. L'idée sublime est toujours impossible à réaliser pleinement d'une république morale se rapetisse étrangement dans les mains de l'homme et aboutit à une institution qui, tout en gardant le pouvoir d'en présenter pure la simple forme, est, pour ce qui touche aux moyens de constituer un tout de ce genre, très bornée, se trouvant soumise aux conditions que pose la nature humaine sensible. Mais comment espérer de faire avec du bois pareillement tordu des charpentes tout à fait droites? La fondation d'un peuple moral de Dieu est donc une œuvre dont l'exécution ne peut être attendue que de Dieu lui-même et non pas des hommes. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit permis à l'homme de rester inactif par rapport à cette entreprise et de laisser faire la Providence, comme si chacun pouvait se borner à s'occuper de ses intérêts moraux personnels et s'en remettre à une sagesse supérieure pour ce qui regarde l'ensemble des intérêts du genre humain, au point de vue de sa destination morale. L'homme doit plutôt procéder comme s'il avait la charge de tout, et ce n'est qu'ainsi qu'il peut espérer qu'une sagesse supérieure viendra bénir et couronner ses efforts animés de bonnes intentions. Le vœu de tous les hommes d'intention bonne est donc, ouverture de guillemets, que le règne de Dieu arrive, que sa volonté soit faite sur la terre. Fermeture de guillemets. Mais comment doivent-ils s'y prendre pour que ce vœu soit exaucé? Une république morale à législation morale divine est une église qui, n'étant pas un objet de l'expérience possible, s'appelle église invisible. Simple idée de la société qui comprend tous les justes sous le gouvernement divin immédiat et moral et qui sert de modèle à chacune de celles que les hommes doivent fonder. L'Église visible est l'association effective des hommes en un tout qui concorde avec cet idéal. Étant donné que toute société gouvernée par des lois publiques comporte une subordination de ses membres entre eux, de ceux qui obéissent aux lois de cette société à ceux qui veillent à l'observation de ces lois. L'ensemble des humains composant ce tout, qu'est l'Église, est la communion des fidèles, soumise à des chefs, appelés docteurs ou pasteurs des âmes, uniquement chargés de l'administration des affaires du chef suprême et invisible de l'Église, et qui, sous ce rapport, s'appellent tous serviteurs de l'Église, comme le fait dans la société politique le chef visible du pouvoir qui se donne parfois lui-même le titre de premier serviteur de l'État, bien qu'il ne reconnaisse au-dessus de lui aucun homme, ni même d'ordinaire la nation elle-même. La véritable Église visible est celle qui représente le règne moral de Dieu sur la terre, autant que les hommes en sont capables. Les conditions auxquelles elle doit satisfaire, par suite aussi, les marques de la véritable Église sont les suivantes. Premièrement, l'universalité. Donc l'unité numérique, caractère dont elle doit contenir en soi la disposition. Si bien que, malgré les opinions contingentes et les désaccords, elle soit cependant, par rapport au but essentiel, fondée sur des principes qui doivent nécessairement conduire à l'union générale en une seule Église, donc point de secte séparée. Deuxièmement, la qualité, caractère essentiel, qui est la pureté, l'union ne se faisant que par des mobiles moraux, également exempts de superstitions imbéciles et de délirants fanatismes. Troisièmement, la relation, sous le principe de la liberté, s'appliquant aussi bien aux rapports des membres entre eux, à l'intérieur de l'Église, qu'aux rapports extérieurs de cette Église avec le pouvoir politique, comme cela a lieu dans une république. Donc, ni hiérarchie, ni illuminisme, sorte de démocratie, procédant par inspirations individuelles, qui peuvent présenter entre elles autant de différences qu'il en existe entre tous les individus. Quatrièmement, la modalité, c'est-à-dire l'immutabilité dans sa constitution. Réserve faite néanmoins des dispositions contingentes qui doivent changer avec le temps et suivant les circonstances, et qui d'ailleurs ne portent que sur son administration. Immutabilité dont elle doit, du reste, contenir déjà en elle-même, a priori, dans l'idée de sa fin, les principes certains. Il faut donc que l'Église ait des lois primordiales, officiellement promulguées en prescription, comme par un code, et non des symboles arbitraires qui, manquant d'authenticité, sont contingents, sujets à la contradiction et variables. Une république morale en tant qu'Église, c'est-à-dire considérée comme une simple représentation d'un état de Dieu, n'a donc pas de principe, à proprement parler, qui la rende semblable à un système politique. Sa constitution n'est ni monarchique, avec un pape ou un patriarche pour chef, ni aristocratique, avec des évêques et des prélats, ni démocratique, avec des sectaires illuminés. On pourrait encore, ce serait le mieux, la comparer à une maison, à une famille, que gouverne un père, moral, commun, invisible, il est vrai, mais représenté par son fils très saint, qui, sachant ce que veut le père, et uni par les liens du sang à tous les membres de cette famille, leur transmet ses ordres plus clairement, et par suite, les porte à l'honorer en lui et à s'unir de cœur tous ensemble dans une confraternité spontanée, générale et durable. Grand 5. La constitution d'une Église a toujours à sa base une foi historique, croyance révélée, qu'on peut appeler ecclésiastique, et qui trouve en des livres saints ses meilleurs fondements. La foi religieuse pure est la seule qui puisse fonder une Église universelle, parce qu'étant une simple foi de la raison, elle peut se communiquer à tous avec force persuasive. Tandis qu'une foi historique, simplement fondée sur des faits, ne saurait étendre son influence au-delà des limites de temps et de lieu où les renseignements par lesquels on la juge demeurent suffisants à lui trouver créance. Mais une faiblesse particulière à l'humaine nature fait que l'on n'apprécie jamais cette croyance pure à sa juste valeur, empêche de fonder une Église sur elle seule. Conscients de leur impuissance à connaître les choses suprasensibles, et tout en témoignant beaucoup d'honneur à cette foi, qui doit en général être convaincante pour eux, les hommes, cependant, ne sont pas faciles à persuader que l'application soutenue à vivre moralement bien soit tout ce que Dieu leur demande pour être des sujets qu'ils remarquent avec complaisance dans son royaume. Ils ne savent pas concevoir leur obligation autrement que sous forme d'un culte qu'ils ont à rendre à Dieu. Culte où il s'agit moins de la valeur morale interne des actions que de leur accomplissement au service de Dieu pour se rendre agréable à Dieu en accomplissant ses actions, quelque indifférente d'ailleurs qu'elles puissent être en elles-mêmes moralement, puisqu'elles témoignent au moins d'une obéissance passive. Ils ne peuvent pas se faire à l'idée qu'en accomplissant leur devoir envers les hommes, envers eux-mêmes comme envers autrui, ils observent également les commandements divins, qu'ainsi, dans toute leur conduite, en ce qu'elle a rapport à la moralité, ils sont toujours au service de Dieu, et que même, il est absolument impossible pour eux de servir Dieu d'une façon plus directe autrement, puisque c'est seulement sur des êtres du monde et non sur Dieu que peuvent s'exercer leur action et leur influence. Parce que les grands hommes de ce monde ont un besoin particulier d'être honorés de leurs sujets et d'en être loués par des marques de soumission, toutes choses indispensables afin de pouvoir en attendre une obéissance aussi grande qu'il est requis pour qu'ils puissent leur commander. Parce que les hommes, au surplus, quelque raisonnables qu'ils soient, trouvent toujours un plaisir immédiat à des témoignages d'honneur, on traite le devoir en tant qu'en même temps il est un précepte divin, comme une chose à faire dans l'intérêt de Dieu et non de l'homme. Et de là provient le concept d'une religion cultuelle au lieu du concept d'une religion morale pure. Toute la religion, consistant à regarder Dieu relativement à tous nos devoirs, comme le législateur à qui tout le monde doit témoigner de la vénération, il est important de savoir dans la détermination de la religion, en ce qu'elle a rapport à notre conduite qu'elle dirige, comment Dieu veut être honoré et obéi. Or, une volonté divine législatrice commande, ou par des lois en soi simplement statutaires, ou par des lois purement morales. Pour ce qui est de ces dernières, chacun peut de lui-même, par sa propre raison, connaître la volonté de Dieu, qui est le fondement de sa religion. Car le concept de la divinité ne résulte, à vrai dire, que de la conscience de ses lois et du besoin qu'a la raison d'admettre une force douée du pouvoir de leur procurer, en harmonie avec la fin morale, tous les faits possibles dans l'un des mondes. Le concept d'une volonté divine, que déterminent simplement des lois morales pures, nous mène à la conception d'un seul Dieu, et par suite à celle d'une religion unique, religion purement morale. Mais si nous admettons des lois statutaires de Dieu, et si nous faisons de la religion l'observation de ses lois, la connaissance alors en est impossible pour nous au moyen de la raison seule. Il ne devient possible que par une révélation qui, faite à chacun en particulier ou annoncée publiquement pour être propagée par la tradition ou par l'écriture parmi les hommes, est toujours croyance historique et non croyance pure de raison. Or, je veux bien que l'on admette aussi des lois statutaires divines, des lois qui ne sauraient être obligatoires par elles-mêmes et qui ne se donnent pour telles qu'à titre d'expression de la volonté de Dieu révélée. Il n'en est pas moins vrai que la législation morale pure, par laquelle la volonté de Dieu est originairement écrite dans notre cœur, forme non seulement la condition indispensable de toute la vraie religion en général, mais qu'elle est même proprement ce qui la constitue. Et la religion statutaire ne peut être que le moyen servant à étendre et à propager le fond de la vraie religion. Si donc la question de savoir comment Dieu veut être honoré doit être résolue d'une manière universelle, valable pour tout homme, considéré simplement en tant qu'homme, il faut reconnaître sans hésiter que la législation qui exprime sa volonté ne saurait être que morale. En effet, supposant une révélation, la législation statutaire peut seulement être considérée comme une législation contingente, qui n'est pas arrivée à tous ou ne peut arriver à tous, et qui, par conséquent, n'est point obligatoire pour l'homme en général. Les vrais adorateurs de Dieu ne sont donc pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui glorifient le Seigneur ou sont envoyés en tant qu'être de nature divine, selon des concepts révélés que tout homme ne peut avoir, mais ceux qui cherchent à lui plaire par leur bonne conduite, relativement à laquelle tout le monde connaît la volonté de Dieu, ceux qui le servent et l'honorent ainsi qu'ils le désirent. Mais si nous nous croyons tenus d'agir non seulement comme hommes, mais aussi comme citoyens d'un État divin sur la terre, et de coopérer à l'existence d'une société de ce genre, qu'on appelle du nom d'Église, la question de savoir comment, dans une Église, communauté de Dieu, le Seigneur veut être honoré, ne paraît pas pouvoir être résolue par la raison seule, et semble affirmer le besoin d'une législation statutaire qui ne peut nous être donnée que par révélation, par conséquent, d'une foi historique, que, par opposition à la foi religieuse pure, on peut appeler croyance d'Église. Dans la foi religieuse pure, on ne considère en effet que ce qui forme la matière des honneurs que l'on rend à Dieu, c'est-à-dire l'accomplissement, dicté par l'intention morale, de tous les devoirs en tant que précepte divin. Tandis qu'une Église, qui réunit beaucoup d'hommes animés de sentiments moraux et constitue ainsi une république morale, a besoin d'un système public d'obligations, d'une certaine forme ecclésiastique liée à des conditions empiriques, forme qui est en soi contingente et diverse, et que, par conséquent, on ne peut admettre comme un devoir sans l'intervention de lois statutaires divines. Toutefois, il ne faudrait pas regarder, pour cette raison, la détermination de cette forme comme étant l'œuvre du législateur divin. Il y a lieu plutôt de supposer que la volonté divine est de nous voir réaliser nous-mêmes l'idée rationnelle de la République en question et d'imposer aux hommes, malgré leurs essais malheureux de multiples formes d'Église, l'obligation de continuer à tendre toujours vers ce but, si besoin est, par des essais nouveaux, évitant autant que possible les fautes commises antérieurement. Si bien que cette affaire, qui est à la fois pour eux un devoir, est entièrement remise à leurs propres soins. Rien n'autorise donc à tenir d'emblée pour divines et statutaires les lois qui ont trait à la fondation et à la forme d'une Église. Et il y a plutôt de la témérité à prétendre qu'elles sont elles pour s'épargner la peine d'améliorer constamment la forme de cette Église. Si même cela ne constitue pas une usurpation de pouvoir, ayant pour but d'imposer un joug à la foule au moyen de lois ecclésiastiques auxquelles on attribue l'autorité divine. Il y aurait d'ailleurs autant de présomptions à refuser d'admettre que l'organisation d'une Église puisse peut-être aussi être le résultat d'une institution divine particulière, quand nous la trouvons, autant que nous sommes capables d'en juger, dans le plus grand accord avec la religion morale, et quand il est, en outre, impossible de bien comprendre comment, sans les progrès préparatoires indispensables du public dans le champ des concepts religieux, elle a pu tout d'un coup faire son apparition. L'état d'indécision où nous demeurons sur ce point, est-ce à Dieu ou aux hommes de fonder une Église, est lui-même la preuve du penchant qu'ont les hommes à la religion cultuelle. Et, comme le culte est basé sur des prescriptions arbitraires, à la foi en des lois divines statutaires. En partant de cette hypothèse qu'à la plus excellente façon de vivre que l'homme puisse avoir en suivant les préceptes de la religion purement morale, doit s'ajouter encore une législation divine que la raison ne peut connaître et qui exige une révélation. Par où l'on a directement en vue des honneurs à rendre à l'être suprême, qui ne sont pas ceux qu'on lui rend avec la raison en accomplissant ses commandements suivant l'ordre déjà donné. De là vient que les hommes n'estimeront jamais leur réunion en une Église et leur accord, touchant la forme à lui donner, comme nécessaires en soi, à titre d'institution publique, servant à développer ce cas de morale, la religion, et qu'ils n'en verront la nécessité qu'afin de servir leur Dieu, comme ils disent, par des solennités, par des actes de foi, s'adressant aux lois révélées et par l'observance des prescriptions liées à la forme de l'Église, qui elle-même cependant n'est qu'un moyen. Quoique toutes ces pratiques, au fond, soient des actions moralement indifférentes, elles sont regardées comme d'autant plus agréables à Dieu qu'elles ne doivent être accomplies qu'en vue de lui. Dans l'arrangement par les hommes d'une république morale, la croyance d'Église précède naturellement la foi religieuse pure. Et l'on a eu des temples, c'est-à-dire des édifices consacrés au culte public de Dieu, avant qu'il y eût des églises, c'est-à-dire des lieux où l'on se réunit pour s'instruire et pour vivifier ses intentions morales. Des prêtres, c'est-à-dire des gardiens proposés aux pieuses pratiques, avant qu'il y eût des ecclésiastiques, c'est-à-dire des docteurs de la religion purement morale. Et en majorité, le peuple continue encore dans ce domaine à conformer l'ordre de prééminence à l'ordre de préexistence. Et maintenant qu'il est bien établi qu'une foi d'église statutaire n'a pas à s'ajouter à la foi religieuse pure en qualité de véhicule, et comme un moyen d'amener les hommes à se liguer au profit de cette croyance, il faut encore convenir que la conservation immuable de cette foi, sa diffusion universelle et uniforme, et même le respect de la révélation admise en elle, seraient difficilement assurés par la tradition. Ils ne peuvent l'être suffisamment que par l'Écriture, qui elle-même, en tant que révélation, doit à son tour être pour les contemporains et pour les générations qui les suivent un objet de haute vénération. Car les hommes ont besoin de cette garantie pour être sûrs de leur devoir en ce qui regarde le culte. Un livre saint acquiert la plus grande vénération, même, et surtout, devrais-je dire, auprès de ceux qui ne le lisent point, ou qui, du moins, ne sauraient en tirer aucun concept religieux bien lié. Et il n'y a pas de raisonnement qui puisse tenir contre cet arrêt sans appel, qui lève tous les doutes et réduit toutes les objections. C'est écrit dans le Livre Saint. Aussi, les passages de l'Écriture servant à l'exposition d'un point de croyance sont-ils appelés sentences tout court. Les interprètes autorisés d'un pareil livre sont, par leur charge même, des personnes quasi sacrées, et l'histoire prouve qu'une croyance fondée sur l'Écriture n'a jamais pu être détruite même par les révolutions politiques des plus radicales. Tandis que les croyances reposant sur la tradition et sur d'anciennes observances publiques disparaissent aussitôt que l'État se disloque. Quel bonheur pour les hommes quand ils ont dans les mains un livre de ce genre qui, outre des statuts ou règles de croyance, contient dans son intégrité la plus pure doctrine religieuse morale, et que cette doctrine peut en même temps être mise en harmonie parfaite avec ses statuts, véhicules qui lui servent à s'introduire. En ce cas, à cause du but qu'il sert à atteindre et aussi en raison de la difficulté de s'expliquer au moyen de lois naturelles, l'origine de la grande illumination par lui opérée dans le genre humain, ce livre peut revendiquer toute l'autorité d'une révélation. Ajoutons encore quelques mots relatifs à ce concept de foi révélée. Il n'y a qu'une vraie religion, mais il peut y avoir plusieurs espèces de croyances. On peut ajouter que dans la pluralité des églises distinctes les unes des autres, à cause de la diversité de leurs croyances spéciales, il peut pourtant se rencontrer une seule et même vraie religion. Il est donc plus correct, c'est d'ailleurs en réalité l'usage le plus répandu, de dire d'un homme qu'il fait partie de telle ou telle croyance, juive, mahométane, chrétienne, catholique, luthérienne. Que de dire qu'il est de telle ou telle religion? Il serait à souhaiter qu'on n'employât jamais cette dernière expression quand on s'adresse au grand public, dans les catéchismes et dans les sermons, car elle est trop savante et trop incompréhensible pour lui. Ce que prouve bien l'absence de termes ayant le même sens dans les langues modernes. Le vulgaire comprend toujours par « religion » sa croyance d'église, croyance qui lui saute aux yeux, alors que la religion se tient cachée au fond de l'homme et dépend seulement des sentiments moraux. C'est faire trop d'honneur à la plupart des hommes que de dire « ils se reconnaissent de telle ou telle religion », car ils n'en connaissent et n'en désirent aucune. La foi statutaire d'Église est tout ce qu'ils entendent par ce mot. Les prétendues guerres de religion, qui, si souvent ont ébranlé le monde en le couvrant de sang, n'ont jamais non plus été autre chose que des querelles suscitées autour de croyances d'Église. Et les opprimés ne se plaignaient pas, à vrai dire, de ce qu'on les empêchait de rester fidèles à leur religion, ce qui dépasse le pouvoir de toute puissance extérieure, mais de ce qu'on ne leur permettait pas de pratiquer publiquement les croyances de leur Église. Or, une Église qui elle-même se donne, comme c'est le cas ordinaire, pour la seule et l'universelle, bien qu'elle soit fondée sur une croyance révélée particulière qu'on ne peut jamais exiger de tous, étant donné qu'elle est d'ordre historique, traite d'incrédule quiconque refuse d'accepter sa croyance ecclésiastique particulière et le déteste de tout cœur. Quiconque s'en écarte, ne serait-ce qu'un peu et sur un point non essentiel, est pour elle un hétérodoxe qu'on doit tout au moins fuir comme contagieux. Quiconque enfin se reconnaît de cette Église, mais néanmoins s'écarte en un point essentiel ou donné pour tel, de la foi que l'on y professe, se voit appelé hérétique, surtout quand il propage son hétérodoxie, et il est réputé en tant que séditieux comme plus punissable encore qu'un ennemi extérieur. L'Église l'exclut de son sein par une excommunication, semblable à celle que proféraient les Romains contre celui qui franchissait le Rubicon sans l'assentiment du Sénat, et elle le dévoue à tous les dieux infernaux. La prétention de n'admettre pour vrai, sur un point de croyance ecclésiastique, que la seule foi des docteurs ou des chefs d'une église s'appelle orthodoxie. Et l'on peut distinguer une orthodoxie despotique, brutale, et une orthodoxie libérale. S'il faut appeler catholique une église qui donne sa croyance ecclésiastique pour universellement obligatoire, et protestante celle qui se défend contre ses prétentions, que toutefois elle serait souvent elle-même heureuse de pratiquer si elle le pouvait. Un observateur attentif pourra trouver maints exemples célèbres de catholiques protestants, et encore plus de scandaleux exemples de protestants archi-catholiques. D'un côté, d'hommes ayant acquis une largeur d'esprit, qui n'est point le propre de leur Église, et de l'autre côté, d'hommes à l'esprit rétréci, formant avec cela un contraste frappant, mais aucunement à leur avantage.